chers auditeurs, bienvenue à Radio Grand Ciel. Dans notre émission sous le titre Art et foi, nous allons aborder différents thèmes liés à l'art, à l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et j'ai le très grand plaisir pour cette fois-ci de saluer dans le studio Michel Boutier, que vous connaissez sans doute déjà. Il a produit déjà quelques émissions avec moi sur la cathédrale de Chartres et il va nous parler aujourd'hui d'un thème qui lui est très cher, le voile de la Vierge et le culte des reliques à Chartres. Nous avons à Chartres une relique majeure et pour cela, nous allons donner tout de suite la parole à Michel Boutier, que je présente très brièvement comme historien et diplômé de l'École pratique des hautes études. Bonjour Monsieur Boutier.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce voile qui se trouve dans la cathédrale depuis plus de 1000 ans déjà?
Ben oui, depuis plus de 1000 ans, donc on peut dire beaucoup de choses. En fait, tout le monde, bien sûr, connaît en gros les grandes lignes de l'histoire du voile depuis qu'il est à Chartres, donc depuis 876, si je ne me trompe pas. Mais on ne s'est jamais inquiété du sens. Que représente cette relique? Alors, en fait, je me suis attaché à répondre à deux questions. Pourquoi c'est Charles le Chauve qui offre le voile, d'abord? Ça aurait pu être un autre souverain. Et ensuite, mais pourquoi Chartres? Voilà, donc c'est deux questions qui sont tout à fait essentielles. Et on va s'apercevoir à partir de là qu'il y a toute une histoire extraordinaire de sens, de signification qui va se développer. Et ensuite, cette grande recherche du sens va se développer sur deux volets. D'abord, le sens qui répond à la question « Pourquoi Chartres ?» et « Pourquoi Charles le Chauve ?» Là, c'est ce qui concerne, j'allais dire, le voile. Et puis ensuite, tout le monde le sait, la relique était connue sous le nom de chemise de la Vierge Marie. Et donc ça, c'est un autre chapitre, voilà, qui va se mettre en place... Peut-être à partir de Fulbert, ça je ne sais pas exactement. En tout cas, ça va être extrêmement développé au XIIIe siècle avec la reconstruction de la cathédrale. Et ça, c'est un deuxième volet. Voilà.
C'est vrai que donc, pour les auditeurs qui connaîtraient peut-être pas tout à fait l'histoire du voile, rappelons qu'il a été donné par Irène de Byzance à Charlemagne.
Oui, oui.
Le grand-père de Charles le Chauve, voilà. Qui va le déposer avec d'autres reliques à Aix-la-Chapelle.
Oui.
Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi ce voile va être sorti de ce lot de reliques et donné par Charles le Chauve, comme vous dites, à la cathédrale de Chartres, et pas pourquoi à n'importe quelle autre cathédrale.
Alors, vous savez qu'entre politiques, déjà à cette époque-là, c'était la guerre et les rivalités. Et Charles Chauve aura maille à partie avec l'empereur Louis le Germanique, qui lui, son territoire, recouvrait Aix-la-Chapelle. Et donc Charles Chauve va, à la suite de la mort de Louis le Pieux, va s'emparer du trône d'Aix-la-Chapelle. Oh, ça va durer un mois, je crois, pas plus. Mais il aura le temps, évidemment, de faire main basse sur tous les objets qui l'intéressent. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a un fauteuil qui, semble-t-il, viendrait du Lot et qui se trouve maintenant à Saint-Denis, à côté de Paris. Voilà, et donc on voit très bien qu'il va donc prendre ce voile avec sa chapelle et ensuite on a donc la trace de ce voile dans le palais impérial qu'il construit à Compiègne.
Est-ce que des documents nous renseignent sur la place que va tenir cette relique? On a des documents qui nous renseignent sur le fait qu'il va l'installer à Compiègne, d'abord.
Ben on le trouve ensuite dans les registres, je dirais, les inventaires.
Mm-hmm.
Voilà. Donc on sait qu'il est arrivé là. Et puis à Compiègne, il va donc construire ce palais et il va construire donc l'église impériale qui va être évidemment dédiée à la Vierge Marie. Il va instituer donc des chapelains, etc., pour assurer le culte dans son palais.
Et ce voile qui aujourd'hui est tout petit, exposé dans la cathédrale de Chartres, dans l'une des chapelles absidales, il n'était pas toujours aussi petit?
Ah ben non, là il mesure un peu plus de 2 mètres maintenant, sur à peu près une quarantaine de centimètres de large. Mais lorsque on a ouvert la chasse, donc à la fin du XVIIIe siècle, il mesurait plus de 5 mètres de long.
Voilà. Alors rappelons, c'est au moment de la Révolution française qu'on va piller le trésor et entre autres donc aussi briser...
Ça c'est la deuxième fois qu'on va l'ouvrir. Mais la première fois, on va l'ouvrir uniquement parce qu'on se souciait de la conservation du voile, parce qu'on s'était aperçu que la chasse elle-même, qui était en bois, était recouverte d'or, mais on s'est aperçu que le bois avait vieilli. Et on s'inquiétait.
C'était un peu vermoulu.
Voilà. Et on s'inquiétait de l'état de la relique. Et c'est à cette occasion-là que tout le monde a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une chemise.
Oui, et qu'est-ce qu'on a fait?
Mais d'un voile.
Oui, on l'a vite remis dans la relique, et on s'est dit pourvu que personne ne s'en aperçoive.
Et ça s'est passé en catimini dans la sacristie de la cathédrale.
Mais donc là, on a...
Parce qu'on craignait justement qu'il n'en reste pas grand-chose.
Oui, et finalement, on était rassurés. Et
oui, là, tout à fait.
Ça relève presque du miracle de se dire que cette pièce de tissu, qui était censée avoir déjà à l'époque 1700 ans.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
Alors, donc on était à Charles le Chauve, on était à Compiègne, me semble-t-il. À quel moment va-t-il se dessaisir de cette relique majeure? Il aurait pu la garder.
Alors, la date nous est donnée par un historien chartrain... je l'ai plus en tête, mais peu importe, assez récemment, hein, et qui donnait 876. Il se trouve qu'avec les recherches que j'ai donc entreprises, ça coïncide tout à fait.
Voilà. Et c'est une date clé pour Charles le Chauve.
Ah ben oui, c'est une date clé pour Charles le Chauve. D'abord, l'année d'après, il va mourir.
Mais
je ne le savais pas. Mais Charles le Chauve, justement, a eu d'énormes problèmes pour assurer sa succession. Et évidemment, à cette époque-là, c'est tout le royaume qui était mis en péril s'il n'y avait pas une succession masculine, évidemment, qui était assurée. Et c'est tout l'objet, justement, du don du voile. Alors, Charles le Chauve a été très préoccupé de cette question-là, bien avant qu'il donne le voile à la Vierge, à la Vierge de Chartres, puisqu'il va faire des fondations, tout cela, il va faire des dons, en spécifiant très souvent que c'est fait pour assurer la maternité de la reine. Ça n'a jamais marché. Et la pauvre Ermintrude va être reléguée dans un couvent. Et il va essayer avec sa maîtresse Richilde de pallier à cet inconvénient. Ce qui, donc l'impératrice Richilde va lui donner des enfants, mais ils vont tous mourir en bas âge. En fait, en 876, ils sont tous morts. Il s'est chargé aussi d'en esquinter un, d'ailleurs, d'une manière radicale. Et il ne restera plus que Louis le Bègue. Comme son nom l'indique, excusez-moi du terme, mais il n'est pas sortable.
Il avait un handicap.
Il n'est pas présentable. Et effectivement, c'est un pauvre garçon, certainement, qui manquait de personnalité du fait de son handicap et qui était évidemment incapable de prendre le trône. Il l'a pris malgré tout à la mort de son père. Mais ça a été une catastrophe puisque, avec sa disparition, l'Empire a éclaté. Donc, en 876, ça devient extrêmement critique et urgent, le fait de ne pas avoir de successeur mâle, enfin, au moins digne de ce nom. Et comment implorer la Vierge Marie? Parce que la Vierge Marie, dans son esprit, c'est toute la théologie mariale qui se développe justement autour de la cour de Charles le Chauve, évidemment, est l'image parfaite de la reine mère. Et... justement, Charles le Chauve était très ami avec l'évêque d'Inkmar, qui était l'archevêque de Reims, un personnage extrêmement considérable à cette époque, et il lui a demandé, les deux se sont concertés bien sûr, pour créer à partir de là le rituel pour le couronnement des reines. Jusqu'à présent, il n'y avait que les rois, les empereurs. Mais à partir de ce moment-là, ils vont créer un rituel pour justement implorer les grâces divines, et notamment de la Vierge Marie, pour que la reine assure sa fonction, qui était uniquement la procréation d'héritiers mâles.
Parce que les femmes ne pouvaient pas régner en tant que reines.
Non, elles avaient une fonction très précise, qui était aussi importante d'ailleurs, parce que c'est d'elles que dépendait la pérennité du royaume, donc c'était pas rien. Et alors, justement, lors de cette institution du rituel, il y avait l'imposition du voile sur la tête de la reine pour la mettre sous la protection de la Vierge Marie. Et donc le voile est devenu à ce moment-là, on n'imposait pas la relique en question, j'imagine bien, mais on imposait un voile comme on posait la couronne sur la tête de l'empereur. Et tout cela pour demander la protection de la Vierge Marie qui assure la fécondité de l'impératrice ou de la reine.
Et le voile aurait été, selon la légende ou selon la croyance, été porté par Marie au moment de l'Annonciation.
Voilà, alors ça c'est un autre voile, et c'est le volet de la chemise. Mais si on termine pour le volet du voile lui-même, Donc Charles Chauve, arrivé en 876, est à bout de moyens. Et il va se dessaisir de cette relique extraordinaire. Vous imaginez, c'est pas un tissu qui a touché Saint Arnulf. Vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Et il va s'en dessaisir. Il aurait pu le regarder dans le sanctuaire du palais de Compiègne. Eh bien non, il va s'en dessaisir pour justement l'offrir à la cathédrale de Chartres. Alors on peut se poser des questions, là.
Oui, et le choix de Chartres.
Ben justement, voilà. Et pourquoi Chartres? Maintenant, on a vu pourquoi Charles le Chauve, et pourquoi Chartres, maintenant? En fait, on dit ben, il connaissait l'évêque de Chartres. Oui, ben ça, il n'y a pas de problème à cela, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Pour une relique comme ça, ce n'est pas suffisant. Il avait, parmi ses plus grands amis, je viens de le dire, il avait l'archevêque de Reims. Il aurait quand même pu, si vraiment c'était pour faire plaisir, il aurait pu donner ça à son ami Hincmar, qui d'ailleurs avait travaillé sur le rituel du couronnement des reines. Or, il se trouve qu'il est venu à Chartres, déjà, où il a tenu conseil d'ailleurs, et c'est probablement à cette occasion-là qu'il a fait connaissance de l'évêque de Chartres, et qu'il a fait connaissance aussi du sanctuaire marial, qui était déjà la cathédrale. Or, c'est là que, pour moi, le sanctuaire de la Vierge en enfantement n'est pas une invention du XVIIe ou XVIIIe siècle, ni même du XIVe. C'était certainement quelque chose de très ancien. Et c'est là qu'il s'est aperçu que le sanctuaire de Chartres était spécialement dédié à la Vierge qui enfante.
Donc ça corroborait, vos recherches corroboraient cette très vieille légende selon laquelle il y aurait eu, à l'emplacement de l'actuelle cathédrale, déjà un culte très ancien où on aurait adoré, bien longtemps avant l'arrivée du christianisme, la statue d'une femme avec un enfant sur ses genoux qui aurait pu donc être interprétée dès l'époque païenne, comme la mère qui enfante, la Vierge qui enfante.
Oui, oui, je ne vais pas jusque-là.
Mais c'est une légende qui s'est formée largement.
Je ne vais pas jusque-là. Mmh. Toujours est-il qu'il y a différents chercheurs qui sont passés sur la question, et il y a beaucoup de traces de celtisme, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas de culte ancien et celte, dans les textes même des recueils de miracles, etc. Et il est fort probable, effectivement, qu'ici, comme bien en bien d'autres endroits, de toute façon, il y ait déjà eu un temple d'une divinité ancienne, je ne veux pas dire païenne, parce que c'est mal compris, qui soit dédié à une déesse mère. En cela, vraiment, il n'y a aucune...
Il y avait un temple romain, on le sait.
Il n'y a aucune exagération, il y a bien d'autres exemples, voilà. Maintenant, on a coutume de dire que cette vierge ancienne, était adorée comme la Vierge qui devrait enfanter.
Alors, donc, voilà. On va faire une petite pause musicale et on a donc compris que Chartres était, dès le IXe siècle, un haut lieu marial.
Je pense, oui. Maintenant, est-ce que la relation avec une Vierge d'Hydruic, ça c'est autre chose.
Cher Michel Boutier, vous êtes chargé de cours à l'école internationale du vitrail du patrimoine à Chartres, créée par le Centre international du vitrail. Donc si les auditeurs veulent en savoir plus sur vos recherches et surtout sur les résultats de vos recherches, non seulement sur le voile, mais sur la cathédrale de Chartres, dont vous êtes l'un des spécialistes incontestés, D'ailleurs, vous êtes aussi spécialiste de la cathédrale du Mans, rappelons-le. Oui, là, vous avez un magnifique vitrail aussi d'une Vierge.
Oui.
Donc, nous étions en train de parler de cette relique majeure que possède la cathédrale aujourd'hui depuis 876. Une relique donnée par Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne. Et vous nous avez expliqué pourquoi il a donné ce voile à Chartres. Par contre, on voulait peut-être approfondir encore le lien entre ce voile et la représentation de cette relique sous forme d'une chemise.
Ah oui, ça c'est fondamental, bien sûr. Parce que maintenant, on a répondu à la question pourquoi Charles le Chauve et pourquoi Chartres. Mais donc, dans l'histoire, à partir de... aux alentours de l'an 1000, c'est-à-dire au tout début du XIe siècle, très certainement après le siège de Chartres, qui lui est daté de 911, où là, la relique était apparente, donc il n'y avait pas de doute, tout le monde savait bien que c'était un voile. Et bien après, on va construire une châsse, il y avait sans doute une avant, bien sûr, il y avait un coffret, mais on sait qu'un certain Teudon a construit une nouvelle châsse, pour enfermer cette relique. Et cette châsse, nous avons donc des descriptions, puisqu'elle a été détruite à la Révolution, mais on a beaucoup de descriptions grâce aux inventaires du Trésor. Et elle était donc, c'était un coffre en bois, recouvert de plaques d'or. Alors par la suite, il a été couvert de pierres précieuses, mais à l'origine, il était couvert de plaques d'or, était posé sur un brancard environné de chérubins. Ce magnifique objet était déposé dans le sanctuaire même de la cathédrale. Et malgré sa magnificence, il était invisible du regard puisqu'il était toujours couvert d'un voile. Ce voile étant retiré uniquement à l'Annonciation, à Noël et à la Saint-Nicolas. Alors, quand on constate ce fait, on développe tout de suite des analogies avec le temple de Jérusalem et l'Arche d'Alliance. Alors là, il y a quantité de textes, qui ne sont pas des textes à Chartres, disons-le tout de suite, mais des textes qui étaient donc extrêmement connus, et notamment ceux de Jean Damascène, qui va développer une théologie mariale et qui va faire le lien entre la Vierge Marie et l'Arche d'Alliance. Tous les deux ont contenu la présence divine. L'Arche d'Alliance en temps de Salomon était le siège, le lieu où était la présence divine. Et bien entendu, la Vierge Marie était le réceptacle de la présence divine par excellence. Et donc, elle va être comparée à l'Arche d'Alliance. Alors, dans l'iconographie des cathédrales, d'ailleurs, on voit ce rapprochement entre la Vierge et l'Arche d'Alliance. C'est très visible au portail de Notre-Dame de Paris. Ça a été repris au portail de Notre-Dame d'Amiens. Et ici, à Chartres, l'épopée de l'Arche d'Alliance se trouve très exactement en face le couronnement de la Vierge au portail nord.
Rappelons que l'Arche d'Alliance que vénéraient les Hébreux était dans le Saint des Saints.
Oui, et donc ici, il était dans le sanctuaire, le Saint des Saints.
Oui, dans le temple de Jérusalem, seul le grand prêtre pouvait, après des rituels de purification, pénétrer une fois après la fête du grand pardon dans ce Saint des Saints. Et là, vous rappelez que, de même, ce reliquaire qui contenait le voile, ne pouvait être vu que lors de certaines très grandes fêtes.
Exactement, et en plus de ça, dans le sanctuaire de la cathédrale, ça veut dire que aucun clerc, s'il n'était pas ordonné, c'est-à-dire diacre, prêtre ou évêque, ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire. C'était comme ça dans toutes les cathédrales.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chœur de la cathédrale.
Non, le chœur, c'était là où se trouvaient donc les chanoines, le chœur qui chantait.
Le cœur chantait, et puis le Saint des Saints.
Et ensuite, il y a le sanctuaire. C'est ce qu'on oublie généralement de dire. Mais le sanctuaire, c'est le lieu principal d'une église.
Entouré de courtines, de rideaux.
Voilà, c'était fermé. Et c'est là que se trouvait, bien sûr, l'autel majeur et la grande tribune des reliques. Et c'est là, évidemment, que était déposée cette châsse, comme dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Or, ce parallèle avec le Temple de Jérusalem, ici à Chartres, est absolument extraordinaire, parce que on s'était aperçu très vite que la topographie de la ville ressemblait à la topographie de Jérusalem.
Et voilà, c'est intéressant de constater ce parallélisme.
C'est pas moi qui en a parlé le premier. Le premier qui en a parlé, c'est le chanoine de la Porte. Mais bon, il n'a pas poussé ses investigations plus loin. Mais en tout cas, c'est...
Vous avez donc repris ses recherches et poussé un peu plus loin, justement.
Oui, je suis tombé sur cette remarque. Et voilà, j'ai trouvé que c'était pertinent, tout à fait. Et de fait, donc en poursuivant un peu, effectivement, on s'aperçoit que c'était tout à fait extraordinaire. Et c'est comme ça que Geoffroy de Lèves, qui n'a pas pu partir en pèlerinage à Jérusalem, justement, eh bien, le pape lui a demandé de créer une fondation sur ses terres et qui se trouve dans la vallée de l'Eure. Et il va l'appeler l'abbaye de Josaphat. C'est quand même pas par hasard, Josaphat, c'est pas un nom brosseron, hein. C'est la vallée du Cédron, ou encore la vallée de Josaphat, donc à Jérusalem. Quand vous êtes sur l'esplanade de l'évêché, vous êtes sur l'esplanade du temple. Et devant vous, vous êtes face à l'est. Et devant vous, vous allez à la vallée du Cédron, c'est la vallée de l'Eure, bien sûr. Et en face, la pente de Saint-Chron, c'est le mont des Oliviers.
On se rend compte, quand on est dans le jardin de l'évêché, que c'est très vallonné et il faut tout imaginer boisé à l'époque.
Oui, en face, oui, c'était boisé, absolument. Mais c'est la même topographie. Et donc, il y a ce fait de Geoffroy de Lèves qui est très, très marquant. Et puis, la procession des rameaux. C'est à propos de la procession des rameaux, d'ailleurs, que le chanoine de la Porte fait la comparaison. Surtout, le clergé se rendait à Saint-Chron et traversait, donc sortait du jardin des Oliviers, traversait la vallée de Josaphat pour rentrer à Jérusalem vers le temple. C'était l'entrée solennelle du Christ qui était donc rappelée à ce moment-là. Donc ici, on a évidemment une accumulation de figures tout à fait extraordinaires qui donne une cohérence absolument remarquable à tout cet ensemble qui reproduit donc la nouvelle Jérusalem, bien sûr. Ce n'est plus la Jérusalem de Salomon, c'est la nouvelle Jérusalem.
Et comme l'Arche d'Alliance a été perdue au sac du Temple de Jérusalem, les théologiens, ils ont remplacé l'Arche d'Alliance qui n'avait plus d'importance pour les chrétiens par une nouvelle Arche d'Alliance. Qui est cette nouvelle Arche d'Alliance ? C'est Marie, dans la théologie, c'est Marie.
Voilà, c'est ça, c'est que tous les théologiens chrétiens ont développé, bien sûr.
Elle est intouchable, d'où dans la légende dorée,
histoire. Il y a plein de textes aussi de personnages qui veulent la toucher et qui sont.
Ils se trouvent malades.
Ils ont les mains coupées ou desséchées sur le. On voit ça sur les vitraux de la cathédrale de Chartres, du reste.
Dans le bas côté sud, et puis voilà. Aussi au Centre International Vitrail, nous avons les vitraux de la Renaissance où la même histoire est reprise.
Tout à fait.
Mécréant qui veut pousser le lit où se trouve la
Vierge
endormie.
Et c'est pour cela que. Alors. Dans tous ces récits, notamment le Transitus de Méliton, qui est le principal texte que l'on connaissait, eh bien, il y a toute cette histoire et le peuple qui voulait renverser donc le cortège, le sarcophage de Marie, est resté figé sur place et est devenu aveugle. Et vous trouvez tous ces éléments-là quand le comte de Normandie va raconter le siège de Chartres en 911. Les Normands sont restés pétrifiés sur place, ne pouvant plus avancer, précise le texte. Ils sont devenus aveugles. Ouais. Et ensuite, alors ces histoires de mains coupées, on en trouve à plusieurs endroits dans la Bible aussi, n'est-ce pas ? Quand l'Arche d'Alliance sera prise par les Philistins, ils vont la ranger dans le temple de Dagon, l'idole. Hein, et le lendemain matin, ils se sont aperçus que l'idole était tombée par terre, les mains coupées. Enfin, il y a une quantité d'images comme ça de provenance diverses qui se tuilent les unes sur les autres. Imaginez que ce sont à chaque fois des transparents, vous les posez les uns sur les autres et là vous développez une perspective de sens absolument vertigineuse et extrêmement cohérente puisque ces images se superposent l'une sur l'autre. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans cette mise en scène. Mais entendons-nous bien. De la Sainte Chasse dans le sanctuaire de la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Chartres étant, comme on vient de le voir, sur ce site qui ressemble à Jérusalem.
Vous avez donc constaté ce parallélisme entre l'Arche d'Alliance de l'Ancien Testament, remplacée par Marie, nouvelle Arche d'Alliance, ce qui est resté sur terre de Marie, c'est son voile. Évidemment, nous n'avons rien qui appartient à son corps.
Là aussi, il y a différentes histoires. Hein. Mm. Alors bon, Jean de Damascène, comme je vous l'ai dit, c'était un moine de Jérusalem qui vivait au début du 8e siècle, et bien qui a donc fait des homélies tout à fait remarquables et qui se trouvait collationné dans les manuscrits médiévaux. Et on en parle encore à Chartres au XVIIe siècle. Donc comme quoi le texte est bien connu ici. Et qui fait la comparaison justement entre l'ancienne Arche d'Alliance et la nouvelle, comme vous venez de le dire. Et puis, comment dirais-je...
On a repris la charte au portail nord aussi, oui. Cette petite image sur la base d'une colonne où on voit les Philistins tirant l'Arche d'Alliance et on croit qu'elle est perdue sous la cathédrale.
Et on voit, ça c'est autre chose.
Et en réalité, on veut dire, la nouvelle Arche d'Alliance, elle est là, c'est
on Marie. On ferait mieux de dire ça. Mais pour les curieux, les charfins curieux, ils iront voir ce petit moyen relief, on dira, eh bien, on aperçoit l'idole de Dagon au-dessus qui perd l'équilibre, qui va basculer, mais elle a déjà les mains coupées.
Et vous avez dit dans l'un de vos cours qu'il y a beaucoup de représentations dans la cathédrale qui se rapportent à Marie et l'histoire justement de son voile.
Il y a cette fameuse histoire eutymiaque qui a d'ailleurs été conservée dans une des homélies de Jean Damascène.
Racontez-nous.
Qui nous explique comment justement l'impératrice de Constantinople a demandé à l'évêque de Jérusalem de lui donner les restes de la Vierge Marie pour qu'il soit mieux honoré parce qu'elle avait entendu parler que son tombeau était un peu négligé. Et l'évêque de Jérusalem, évidemment, lui a dit « Mais écoutez, non, il ne reste rien de la Vierge Marie, elle est montée au ciel, d'après ce que nous croyons. Il ne reste plus que les vêtements. » Et donc, on lui a donné les vêtements qu'elle a transportés donc, à Constantinople, et elle a fait construire une église, l'église des Blachernes, hein, c'est le nom du quartier. Et dans cette église, il y avait d'ailleurs une représentation de la Vierge tout à fait particulière. Elle était en orante, donc elle levait les bras c'est le signe de la prière, et sur sa poitrine, il y a un disque qui représente l'enfant Jésus. Alors, c'est pas du tout la Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux, comme on le représente. Hein. Et il y a des spécialistes qui sont penchés, bien sûr, sur cette iconographie-là, et c'est un peu comme une fenêtre dans le corps de Marie, et on la voit porter l'enfant Jésus. Car en fait, dans la théologie chrétienne, des origines jusqu'au Moyen-Âge, même aujourd'hui d'ailleurs, la Vierge Marie, finalement, n'a d'importance que parce qu'elle est la Mère de Dieu. Voilà. Et donc, cette représentation tout à fait particulière se retrouve à Chartres, dans un vitrail de la nef.
Pas bien visible, comme les vitraux sont très corrodés.
Voilà, c'est dans les parties hautes. Mais là aussi, on ne peut pas dire que c'est la seule représentation, parce que dans les autres cathédrales, beaucoup de vitraux ont disparu. Mais enfin, c'est quand même un détail assez troublant également. Comme quoi, on connaissait fort bien cette histoire.
Voilà. Et on a complété cette iconographie par l'acquisition d'une fort belle icône aussi, qui montre la Vierge Marie qui tient son voile au-dessus d'une assistance rassemblée dans une église, et qu'elle protège par ce voile.
Oui, tout à fait.
Il est tout à fait émouvant de se dire que ce voile se trouve dans la cathédrale de Chartres.
Oui. Je ne sais pas si c'est le voile de la Vierge Marie. Hein.
Alors, pour les... en observant, on peut constater que...
Il y a la question de la chemise aussi. Pourquoi a-t-on voulu en faire une chemise ?
Rappelez-nous vite, avant la fin de notre émission qui a passé très vite, pourquoi représentation de la chemise.
Alors là, il faut avoir une idée des reliques, bien sûr. Les reliques contiennent la virtus, la force du défunt qui est au ciel. Et alors ça, on trouve des fondements dans l'Évangile. Hein. Et pourquoi une chemise? Eh bien, justement, c'est que le voile, c'était bien, mais la Vierge Marie l'a porté sur sa tête, a priori. Oui, mais si c'était une chemise, elle aurait porté ce même tissu sur son ventre. Et donc, on a raconté, les clercs ont fabriqué cette histoire de toutes pièces, à mon avis. Ils ont dit que c'était la chemise qu'elle a portée le jour de l'Annonciation et le jour de Noël. Vous imaginez, cette chemise, ce tissu, comporte en lui la force de la Vierge Marie et du Fils de Dieu. Formidable. Mais c'est une relique invraisemblable. C'est la plus belle relique du monde, vous comprenez, hein. Et tout cela, eh bien, on a bien eu soin de le camoufler dans cette chasse, puisque jamais personne n'a voulu l'ouvrir. Jamais. Il y a eu des petits trous à un moment donné, et ils ont tâté avec un fil, ils ont mis des cierges pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. La curiosité était à son comble, mais jamais, jamais on a osé l'ouvrir. C'était un véritable tabou. Il fallait surtout pas que l'on croie que c'était un voile.
C'est pour cela que si on veut en savoir plus, il faut venir à votre cours. Les cours ont lieu dans la toute nouvelle école du vitrail du patrimoine 1 rue Bethléem à Chartres. Chers auditeurs, notre émission est arrivée à sa fin. Ça passe vite quand on écoute attentivement vos explications sur ce voile relique majeure dans la cathédrale depuis 876. Au revoir, chers auditeurs. Vous écouterez désormais nos émissions les lundis à 10h30 et les jeudis à 15h. Au revoir, chers auditeurs.